Jesus, o verso de mulher. Você é nosso, de motuia por la grâce. Nous devons manger tout. Quand c'est Jésus, c'est tout. Vos agneaux s'amontent à la paix, Seigneur. La pierre est précieuse, la voix des or, le parfum des tromperies de ma vie, c'est toi, Jésus. Nous sommes à oh, tu es le meilleur de la vie des hommes. Tu es le précieux de la vie des hommes. Tu es la perle rare de la vie des hommes. Tu es le diamant de nos vies. Oh, Seigneur, aux agneaux s'amontent à la paix. Mais vivons sous tout ce que vous Seigneur, on ne connaît aucun autre nom. Nous ne connaissons pas les noms des hommes. Nous ne connaissons pas les noms des femmes. Mais nous connaissons les noms de Jésus. Le nom le plus précieux de notre vie. Le nom le plus précieux de notre histoire. Le nom qui me suffit. Le nom qui me suffit. Le nom qui fait combler à lui seul toutes nos attentes. Le nom qui fait combler à lui seul nos besoins, le nom qui a la capacité de répondre à tous nos questions. Jésus, aux agneaux sont nos tueurs en bas. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que tu deviennes le tout de la vie d'un homme, que tu deviennes le tout de la vie d'une femme, Seigneur. Seigneur, parle-nous, Seigneur, touche-nous. Enfin, que Seigneur, nous soyons remplis de toi, toi qui es notre tout. C'est pour cela que nous sacrément. Nous t'applaudissons, nous te donnons les cris de joie. Qui te reviennent. À toi qui es notre tout, le cri de toi qui te revient, à toi qui es notre tout, aux agneaux sur la montagne en bas, aux agneaux sur la montagne en bas, agneaux sur la montagne en bas. Jésus est tout pour moi, Jésus est tout pour moi, je répète, Jésus est tout pour moi. Je n'ai pas dit Jésus est tout pour toi. Je ne connais pas s'il est quoi pour toi. J'ai dit Jésus est tout pour moi. Ce qui veut dire que nous tous devons dire Jésus est tout pour moi. J'aimerais que tu dises pour ta propre vie, Jésus est tout pour moi. Tu n'as pas besoin d'entendre ton voisin. Toi, dis Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Azanion Samotuya Polanga. Tu n'as peut-être pas les titres, tu n'as peut-être pas les diplômes, mais quand tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Jésus qui a tout, parce que j'ai Jésus, j'ai tout. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cette louange forte. Ça fait du bien de danser dans la présence de Dieu. Des fois, quand tu as des stress, quand tu as des problèmes, quand tu as des questions, danse seulement dans la présence de Dieu. Et ça va t'apporter le soulagement, le repos, la consolation, la réponse. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Maintenant, après avoir loué le Seigneur, après avoir dansé pour le Seigneur, nous allons l'écouter. Et je pense que le Seigneur va vous bénir. J'aime toujours dire cette phrase et j'aime la garder. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont passés avant et je ne suis pas meilleur que ceux qui passeront après. Je suis juste le petit frère que Dieu a décidé pour vous. Alors, je veux que tu reçoives la parole de Dieu comme si c'est Dieu lui-même qui t'est parlé. J'aurais voulu que lui-même soit ici comme il avait parlé au temps de Jésus, où il était venu. Et lui-même soit ici, qui te parle en vérité, je te l'ai dit, voilà ce que je mérite pour ta vie. Mais il a voulu passer par lui. Je dis merci au pasteur Maurice qui a pensé à moi. C'est à terre, nous, il nous programme. Il a voulu bien nous programmer. Et je pense que dimanche, ça fait déjà trois dimanches ici que j'avais commencé de partager ce qu'il y a. Déjà trois dimanches que nous vous bénissons pour ce que nous avons de merci aussi à vous qui avez bien voulu m'inviter. Je vais dire, c'est ce que je vous avez bien voulu. C'est des fois, quand je vois les gens écrire, je dis le Seigneur, je ne peux pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui écrivent. Le nom du Seigneur soit béni. Tant pis, regardez, nous allons lire la Bible dans Genèse, chapitre 36, verset 1 à 8. Genèse 36, verset 1 à 8. Genèse 36, 1 à 8, c'est le nom de Jésus. Jacob demeura dans les pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Normalement, en français, quand on dit voici la postérité de Jacob, on commence à citer. On n'a pas cité. Parce que les yeux de Dieu n'étaient pas sur la liste des autres, mais les yeux de Dieu étaient sur Joseph. Je m'étais dit que les yeux de Dieu sont sur Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de son
le troupeau avec ses frères, et cet enfant était aussi était auprès des fils de Dieu là et des fils de Dieu, par femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, nous avions vu avec vous que ce n'était pas une raison valable. Il aimait parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères ont vu que leur père l'aimait plus que tous, ils l'ont pris en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph a eu un son. Il les raconta à ses frères qu'il les haïr encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce son que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Seigneur, c'est ta parole, tout ton peuple, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer très fort pour la parole de notre Dieu. Notre thème est simple, vous le connaissez, ça fait déjà trois dimanches. Le premier dimanche, c'était une mission continente. La deuxième fois, c'était partager ce thème, c'était le dimanche de l'Église. Et aujourd'hui, c'est le troisième numéro. Donc, notre thème simple s'intitule écoutez donc les sons que j'ai eu moi. Écoutez donc les sons que j'ai eu moi. Le Père nous a dit à la fin. Écoutez donc les sons que j'ai eu moi. Lorsque nous avions commencé cet enseignement, nous avions dit ceci. Nous avions parlé des trois points. Nous avions parlé du songe, nous avions parlé de le contenu du songe et nous avions parlé du sort du rêve. Nous avions dit les premiers dimanches, ça c'était la récapitulation. Nous avions dit les premiers dimanches que qu'est-ce que l'on appelle par un songe ou un rêve. La définition du dictionnaire français qui définit les songes comme des chimères, des inventions, des fabrications de notre cerveau pendant que nous dormons. Alors, tu peux avoir eu des préoccupations la journée et pendant que tu dors, dans ton subconscient, quand tu dors, ton cerveau t'informe sur tes préoccupations, sur ce qui t'intéresse, sur ce qui te dérange, sur ce qui t'embête, sur les sujets que tu n'as pas touché. Ton cerveau te les présente sous forme des images. Souvent, on le voit quand nous sommes en période de retraite ou de jeûne, certaines personnes sont là, ça veut dire qu'ils mangent. Le cerveau lui donne l'information que tu n'as pas mangé. C'est juste que c'est quelque chose que le cerveau essaie de t'alerter pendant ton sommeil, ce que tu dois faire. Et les blancs définissent le songe comme une invention de notre cerveau. Donc on rêvait qu'ils étaient des souris, un peu dans le trou, d'autres rêvaient qu'ils étaient des oiseaux volés comme des avions. Tout ça n'a aucun sens. Il y a la deuxième définition du dictionnaire biblique. La définition du dictionnaire biblique définit le songe ou les rêves comme une révélation de Dieu. Comme un mystère caché de ce qui est passé ou de ce qu'il veut faire. Alors, ça veut dire ceci. Par rapport ou en analysant la réaction des frères de Joseph qui se sont fâchés contre Joseph quand il a rencontré son rêve. Ils ont considéré les rêves comme une invention du cerveau de Joseph ou comme un message qui vient de Dieu. Ils avaient répondu, parce qu'ils se sont fâchés, ça prouve qu'ils ont considéré les rêves de Joseph comme un message qui vient de Dieu. Et j'avais dit les premiers jours, j'avais dit que si toi tu ne considères pas les rêves de Dieu sur ta propre vie, ton ennemi le considère. J'avais dit ceci, j'avais dit Satan ne te traitera pas selon ton apparence présente, mais Satan te traitera selon les rêves que Dieu a sur ta vie. Donc j'aimerais te dire de ne pas minimiser ta propre vie, de ne pas te voir selon ton apparence méprisable maintenant, mais vois-toi selon la vision que Dieu a pour ta propre vie. Le premier qui doit aimer sa propre vie, c'est toi-même. Car si toi tu ne prends pas au sérieux tes propres rêves, ton ennemi te prendra au sérieux. Et j'avais parlé du deuxième point, j'avais parlé du contenu du rêve. J'avais dit, tout dépend du contenu de ton rêve. Dans le contenu du rêve, Joseph avait vu qu'il y avait des herbes. Les herbes, c'est lorsque vous avez fait les champs ont grandi et puis vous coupez, vous les rassemblez à bosse, ça s'appelle une herbe. Et il a dit que chacun de nous avait sa herbe. Autrement dit, que ta vie produira du résultat. Alors il avait dit, chacun de nous avait sa herbe, mais ma herbe à moi s'est levée et toutes les autres herbes se sont prosternées. J'avais dit ceci. Tout dépend du contenu de ton rêve. Joseph a été trahi par ses frères. Il est arrivé chez Potiphar comme esclave. La femme de Potiphar l'a accusé de tentatives de viol. On l'a jeté en prison comme un criminel. Joseph était en prison, il a interprété les songes pour une personne qui l'a oublié. Mais parce que dans le contenu de son rêve, sa herbe s'était levée, la vie de Joseph a fini par se redresser. Je me suis dit que tout dépend du contenu de ton rêve. Si dans ton rêve tu avais rêvé qu'on t'a tué, qu'on t'a assassiné, qu'on t'a écrasé, ta vie a fini par terre, on t'a repassé, on t'a fait disparaître, on t'a enterré, tu finiras enterré. Mais si dans ton rêve, tu as rêvé des difficultés, de combats, des épreuves, des blocages, des murs, mais dans la finalité, tu as fini par t'élever, ta vie se redressera. Je veux te dire qu'il y a une confiance au rêve de Dieu. Tu as peut-être vu des difficultés, mais dans la finalité, tu finiras par t'élever. J'avais parlé aussi du sort du rêveur. Quel était le sort qui attend le rêveur? J'avais dit que celui que Dieu a montré le pays, c'est un petit garçon de 17 ans. Aux yeux de la loi congolaise, c'est un mineur. Un mineur est un incapable. Il est incapable de signer un contrat. Il ne peut pas prendre un contrat avec une entreprise. Ce contrat est considéré comme nul. Un mineur ne peut pas se marier. Sous certaines conditions, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas s'engager et engager sa responsabilité civile. Parce que c'est un mineur. Donc, Joseph, aux yeux de la législation congolaise, est mineur, incapable, incompétent. Mais Dieu le voit gouverneur d'un pays. C'est pour dire que Dieu la législation de Dieu n'est pas la législation des hommes. Les lois de Dieu ne sont pas les lois des hommes. La capacité de Dieu selon Dieu n'est pas la capacité selon les hommes. Je vais te dire que dépend de la capacité de Dieu qui te verra grand même quand les gens te voient petit. Et j'avais dit que ces petits garçons de 17 ans, j'avais dit l'Église est comme les petits garçons de 17 ans. Celui que l'on ne considère pas, celui que l'on met de côté, celui que l'on néglige, qui va construire l'Église? Pendant le temps de confinement, on parlait de la reprise économique. Pendant le temps de confinement, on parlait de relancer les écoles, de relancer les secteurs économiques, les bars, tout ça. L'Église, qui allait même citer l'Église? On n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que l'Église, aux yeux du monde, l'Église, c'est le petit garçon de 17 ans. Aux yeux du monde, nous sommes grands que quand nous sommes dans notre temple. Quand nous sortons du temple, c'est les petits garçons de 17 ans. Nous, on peut rester comme ça. Les autres secteurs de la vie doivent fonctionner. L'école ne doit pas s'arrêter. C'est un coup. Parce que éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. D'accord. Mais cet enfant-là aura besoin d'être éduqué spirituellement. Même si tu l'enseignes dans, sur le plan de l'école, si sa morale est son moral est mauvais, ce sera un voleur demain. Avec la connaissance de l'école, avec tout avec le cours de l'éducation physique et morale, mais un voleur, un corrompu. Donc l'Église apprend aux criminels à ne pas tuer, l'Église apprend aux fonctionnaires à ne pas voler, l'Église stabilise l'État. Mais qui peut considérer l'Église? Les petits garçons et 17 ans. Alors, j'avais dit que le sort du rêveur, c'est que un jour le pays aura faim et on aura besoin de ces petits. Là, c'était les premiers jours. Et le dimanche passé, nous avions parlé de deux points. C'était les plans imposés. Ça, c'était la récapitulation. Nous avions parlé du plan imposé et de la qualité de ce que tu avais reçu. J'avais dit ceci. J'avais dit que lorsqu'on analyse la raison de Jacob pour aimer Joseph, c'est une raison qui n'est pas valable. La Bible déclare qu'il aimait Joseph parce que Joseph était le fils de sa vieille. J'ai dit, c'est pas vrai. Benjamin est le fils de la vieillesse. Benjamin, c'est vraiment le cadet. Donc, s'il y avait quelqu'un qui devait avoir droit à l'amour parce qu'il est le dernier fils de Benjamin. Mais qui est parlant, Benjamin n'est pas le fils préféré de Jacob, c'est Joseph. J'avais dit ceci. Il y avait une loi, et c'est une loi divine que nous devons donner la double part à l'aîné. Et la Bible nous montre que c'est Dieu lui-même qui avait mis ce principe. Mais Jacob donne la part de Ruben à Joseph. Donc, Joseph a eu les avantages de Ruben. Et l'amour qui devait revenir à Benjamin s'atterrit sur Joseph. J'ai dit ceci, Dieu avait imposé Joseph sans raison valable. J'avais dit ceci, que dans notre vie, Dieu t'imposera sans raison valable. Les gens essaieront d'analyser les calculs, ils essaieront de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi c'est lui, c'est toi, parce que Dieu t'a imposé sans raison valable. Ils analyseront ton parcours, tes études, ils analyseront ta vie, ton histoire, ils voient qu'ils ont essayé d'examiner juste comment il a fait pour arriver à ce niveau, ils se rendront compte que Dieu l'a imposé sans raison valable. Il y aura les travails sans raison valable. Il y aura les mariages sans raison valable. Mais cette personne, elle était pécheresse. Oui, elle était pécheresse. Bata Boyende, il faut pas qu'elle m'en a vu. Oui, c'est normal. Cependant, Dieu a compris et l'a pardonné et a décidé de l'imposer sans raison valable. Je veux te dire que n'aie pas peur. Compte avec Dieu qui va t'imposer dans la vie sans raison valable. En ne comprenant pas ce qui se passe, on trouve que même Seigneur, attaque-toi-même. Oui, attaque-toi-même. Jacob, là, ce qu'il a fait à son père, c'est pas normal, mais tu l'as imposé sans raison valable. Et nous avions parlé aussi de la qualité de ce que tu avais reçu. Et dans la qualité de ce que tu as reçu, on avait soulevé trois points. J'avais dit que la qualité de ce que tu as reçu se fait voir par ton attitude à entretenir ce que tu as reçu, par ta vision que tu portes pour ce que tu as reçu, et par le combat que tu devras mener pour ce que tu as reçu. Dans l'attitude de ce que tu as reçu, nous avions dit que le point de Joseph n'haïs pas Joseph pour n'importe quel rêve. c'était les rêves qui concernent les rêves de ce que Joseph a l'autre a dit que j'étais, Dieu me dit que je me déplacerai dans un pays étranger pour occuper été. Mais parce qu'il a dit que vous là, aussi grand que vous êtes, vous allez vous contenir devant moi. Comme ça engageait la destinée des autres, c'est alors que ça créait tout un problème. J'avais dit aussi que ce sont des rêves qui créent deux camps, le camp des ennemis et le camp des alliés. Pourquoi? Parce que et les alliés et les ennemis se sentent impliqués dans cette destinée. J'avais dit que prépare ton futur de demain par ta position de maintenant devant ton Joseph. J'avais dit que si tu tues son ennemi aujourd'hui, tu te prosterneras avec honte demain devant lui. Mais si tu choisis d'être son allié maintenant, même si ce qu'il dit n'est pas compréhensible, je vous assure, il fallait avoir de l'audace pour dire à son père que j'ai rêvé que tu vas te prosterner devant moi. En tout cas, même Jacob, Marie, il y a l'amour, il y a grondé. Comment ça, moi, ton père, ta mère, tes frères, tes aînés, vont se prosterner devant toi? Ça, c'est quel genre de son? Mais parce que Jacob était son allié, la Bible nous montre que Jacob a embrassé son fils dans le futur. Il n'était jamais prosterné par contre, parce qu'il a choisi d'être son allié, malgré que Joseph avait montré quelques défauts. Tandis que les autres qui ont combattu Joseph, c'est eux qui sont prosternés devant Joseph avec son fils. Ça, c'est ce que nous avions dit le dimanche, parce que ça, c'était la récapitulation. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les deux derniers points, c'est-à-dire la vision que tu portes sur ce que tu as reçu et le combat que tu dois mener pour ce que tu as reçu. Voilà. La vision que tu portes pour ce que tu as reçu. C'est quelle est cette vision? Je me suis rendu compte en analysant la substance de la vision de Joseph, je me suis rendu compte que la vision de Joseph, excusez-moi très attentivement, c'est vraiment, aujourd'hui ça serait peut-être un peu comme un enseignement, mais excusez-moi vraiment très attentivement. La vision de Joseph, selon ce que j'ai analysé, je me suis rendu compte que la vision de Joseph n'est que la continuité de la vision que Dieu avait donnée à Jacob. Je dis ceci, en analysant la substance de la vision de Joseph, je me rends compte que la vision de Joseph n'est que la continuité de la vision que Dieu avait donnée à Jacob. La vision de Joseph, c'est que vous liez des gerbes et vous vous prosternez devant moi. Donc, vous êtes unis devant moi. Alors, quelle était la vision que Dieu avait donnée à Jacob? Nous allons lire dans Genèse chapitre 25, verset 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Nous allons analyser la vision qui était sur la vie de Jacob. La Bible déclare que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples vont se séparer au sortir de tes entrailles. Un de tes peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, c'est la vision qui était plus encore, c'est que ce sera une nation comme son frère, mais la nation la plus grande va s'exprimer devant la nation qui descend des Assyriens. Donc ça correspond avec la vision que Dieu a donnée à Joseph, que vous serez grand de votre côté, mais vous allez vous incliner devant votre frère. Alors, je me suis, lorsque j'ai analysé ça, j'ai compris la réaction des frères de Joseph, pourquoi il s'était passé. Les frères de Joseph ont vu ce que la promesse faite à Jacob a produit dans la vie de Jacob. Je dis ceci, les frères de Joseph ont vu ce que la promesse donnée à Jacob a fait dans la vie de Jacob. Cette promesse a confondu Isaac, son père. Isaac avait son programme, la promesse que Dieu a donnée à Jacob a confondu Isaac. Cette promesse a confondu Esaü. Esaü était l'aîné qui avait le droit d'aîné, ce qui devait avoir la bénédiction, mais ça l'a confondu. Cette promesse a appauvri Laban. Ça a appauvri Laban. Dès que Jacob est arrivé entre les mains de Laban, Laban n'est pas n'importe qui. Laban était un homme d'affaires heureux. Il sait comment s'enrichir en exploitant les autres. Mais cette promesse a réussi à déjouer les contours de Laban et à appauvrir Laban. Jacob est sorti et avec les enfants et avec les biens de Laban. Donc cette promesse a bouleversé tout le monde autour de lui pour imposer Jacob. Les frères de Joseph ont vu ce que la promesse. C'était juste trois phrases ou deux phrases. Deux peuples vont sortir, mais le plus petit va devenir le plus grand. Deux phrases. Lorsqu'on vient, c'est Joseph, c'est juste deux sens. Le premier sens, la gerbe de Joseph est debout, les gerbes de ses frères se prosternent. Le deuxième sens, les étoiles, la lune et onze, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternent autour de Joseph. Juste deux sens. Des phrases simples, des mots courts. Un sens qui n'était même pas une minute pour l'expliquer. C'est simple Mais ils ont vu le résultat. J'aimerais t'encourager de ne pas négliger les résultats du rêve que Dieu a pour ta vie. J'aimerais t'encourager de ne pas négliger les résultats du rêve que Dieu a pour ta vie. Dieu ne te donne que les condensés de ta vie. Dieu ne te donne que les résumés de ta vie. Mais l'impact de ta vie, l'implication de ta vie, les retournements des situations qui se cassent derrière ton rêve, tu ne le connais pas. Alors j'aimerais te dire que sois sûr que si Dieu a décidé de t'imposer, il va t'imposer. Dieu ne te donnera que les résumés, Dieu ne te donnera que l'abrégé, Dieu ne te donnera que les condensés de l'histoire de ta vie, que tu es une œuvre, que les gens vont te concerner. Mais l'implication, les retournements des situations, les étapes à gauche, à droite, la situation A et B, c'est Dieu qui te donne ce qui va se passer. Les frères de Joseph se sont rendus compte qu'une seule promesse, ça bougeait toutes les situations autour de Jacob. Ça bougeait le statu quo. Jacob n'était pas l'aîné, il a eu les avantages de l'aîné. Ésaü était puissant. Dieu a donné à Jacob le pays de la promesse, mais il a donné à Ésaü un désert. Et là, nous lisons cette vérité dans Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1, j'avais dit aujourd'hui, on va beaucoup lire pour qu'on comprenne ce que Dieu a donné. Malachie chapitre 1, verset 2 à 4. Malachie 1, 2 à 4. Malachie 1, 2 à 4. Voilà ce que la Bible nous dit. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine au Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. On peut s'arrêter. J'ai livré son héritage, son pays, j'ai livré au chacal du désert. J'en ai fait un désert, mais à toi, Jacob, j'ai donné la terre promise. J'ai pris cette promesse que Dieu te donne la terre promise au nom de Jésus. Dieu te donnera la terre promise qui t'est donnée. Regardez, c'était qu'une simple phrase, c'était qu'une simple parole. Je me laisse dire, mais n'existe pas l'homme des rêves qui a donné. Il n'existe pas la femme de rêve qui est à côté de toi. Parce qu'à cause de son rêve, Dieu peut faire de ta vie un désert. Alléluia. À cause de son rêve, Dieu peut faire de ta vie un désert. Et que celui qui est à côté de toi ne néglige pas les rêves que Dieu a pour toi. Pas à cause de ton rêve, Dieu peut faire de ta vie un désert. Dieu a fait de la vie d'Ésaü, de la promesse d'Ésaü, du territoire d'Ésaü, du pays d'Ésaü, un désert, tout simplement parce que Jacob devait avoir son territoire. Parce que Jacob devait avoir les preuves que Dieu l'a aimé. J'ai pris que pour sa vie, que Dieu te donne les preuves qu'il t'a aimé. C'est pour ta vie que Dieu te donne les preuves qu'il t'a aimé. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu que Dieu t'a aimé. Dieu te prouvera par les circonstances de ta vie. Dieu te prouvera par sa bonté. Dieu te prouvera par sa miséricorde qu'il t'a aimé. Je me suis dit que tu n'as pas encore goûté au meilleur de l'amour avec Dieu. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. En quoi nous as-tu aimé? Voilà ce que j'ai fait. Pour vous, j'en ai fait un pays où coule le lait et le miel. Pour Jacob, j'ai fait de ton pays un désert. Comparé. J'aimerais te dire qu'autour de toi, si tu te rends compte que Dieu commence à faire de ta vie un pays où coule le lait et le miel, autour de toi, Dieu commence à créer le désert. Comprends que Dieu veut prouver qu'il t'a aimé. Alléluia. Je ne dis pas, mais Seigneur, pour nous nier aux autres, ça va insister. J'aimerais te dire que si Dieu ne crée pas entre guillemets cette certaine injustice, personne ne te regardera. Personne ne te respectera. Alors pour que Dieu prouve au monde qu'il t'a aimé, autour de toi, il te donnera le pays où coule le lait et le miel, mais à côté, il laisse un peu le désert pour qu'on fasse la comparaison. Mais celui-ci, ma preuve, mais pour la vie, c'est comme si c'est un peu plus. Dieu nous aimera de la même façon, mais ses preuves seront différentes chez les uns et chez les autres. Chez les uns, auront un peu plus, chez les autres, auront un peu moins. Pour que les gens puissent comparer que nous tous, on est aimés de Dieu, mais lui-là, il a moi du colo. Je m'étais dit que pour ta vie, c'est à la moi du colo. Je m'étais dit que pour le projet de ta vie, Dieu va t'amener à moi du colo. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passeras, Dieu te donnera un peu plus. Parce que la nuit, je vais te prouver que tu es aimé, fait que tu es déçu en amour, fait que tu es déçu dans le travail, fait que tu es déçu par la famille. Je te dis que je te prouverai que je t'aimerai. Autour de toi qui t'ont déçu, ils auront le désert. Mais toi que j'ai aimé, je donnerai le pays où coule le lait et le miel. Laisse-moi pas fermer ton corps pour la parole de Dieu. Dieu te donnera le pays où coule le lait et le miel. Il fera la différence. C'est là où nous comprenons les passages de la Bible qui dit que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Il y aura des avantages que je donnerai à tout le monde parce que je suis le Dieu créateur de tout le monde. Mais à toi parce que j'ai aimé, à toi que j'ai chéri dans mon cœur, à toi que j'ai retiré du monde, que j'ai retiré de l'impudicité, que j'ai lavé du péché, que j'ai rendu propre, tu verras les preuves de mon amour, je te donnerai les pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, nous prierons pour dire à Dieu, Seigneur, tu es le créateur de tout le monde, mais moi, tu m'as aimé. Amen, tu n'as pas compris. Dieu est le créateur de tout le monde, mais toi, il t'a aimé. Je veux dire, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai bénéficié des avantages que tu donnes à tout le monde. Je veux maintenant que tu me donnes les avantages de ce que tu as aimé. Je n'ai pas encore goûté les preuves de l'amour de Dieu. Nous dirons, Seigneur, jusqu'à présent, et bénéficier des avantages de tout le monde. Maintenant, j'aimerais goûter les avantages de servir avec qui tu aimes. Alléluia. C'est lui que tu aimes. Les frères de Joseph ont vu ça. Ils ont rendu compte de moi, non. Qu'est-ce que tu dis? C'est Joseph qui dit à quelque chose que nous n'avons pas. Ils se sont rendus compte que la vision de Joseph avait une hauteur. Rendez-vous. Ils se sont rendus compte que c'est différent devant la vision de Joseph. Mais vision, c'est que regarde du colo. Dieu te dit que Dieu donnera la vision de ta vie, vous allez du colo. On se rend compte que tout le monde a des visions pour sa vie. C'est bien, mais la tienne là, les gens du colo, est-ce que tu peux dire les gens du colo? La vision de ma vie sera au-dessus. L'histoire de ma vie sera au-dessus. La destinée de ta vie sera au-dessus. Tout le monde sera béni, mais toi, alors, non, oui, tout le monde est béni. Tout le monde est prospère, mais quant à toi, tu seras au-dessus. Fais-tu un l'aura morto. Oui, tu auras dit que non, c'est pas possible. Jacob n'avait que deux phrases. Deux peuples sortent, le petit va donner. Lui, il a eu que deux sens. Dans le premier sens, au goût même mieux. Dans le deuxième sens, au goût même mieux. Non, fais-tu un l'aura du colo. Je veux te dire que Dieu a décidé de te donner ce qui est au-dessus. Peu importe ce que l'on pense, peu importe ce que l'on dit, ta vie sera au-dessus. Et nous allons voir avec vous aujourd'hui les résultats de la vie de Joseph. Ça a été au-dessus. Les résultats de la vie de Joseph a été au-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait donné une vision qui avait une certaine hauteur. La qualité de ce que tu as reçu se fait voir par la hauteur de la vision que tu portes pour la chose que tu as reçue. La qualité de ce que tu as reçu se fera voir par la hauteur de la vision que tu penses pour ce que tu as reçu. Il y a des visions basses et des visions hautes. Et vous allez voir que Joseph avait reçu la vision des patriarches. Quand je dis patriarche, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Joseph avait reçu la vision des patriarches. Et c'est ce que nous verrons avec vous en lisant un peu certains textes bibliques. Joseph avait reçu la vision des patriarches. La vision des patriarches, c'était quoi? Vous allez voir que tous les patriarches, lorsqu'on analyse leur histoire, leur vision s'est conjuguée sous, je peux dire, cinq formats. Le premier format, c'est Dieu vient déplacer les patriarches. Nous n'allons pas entrer dans les détails là-bas. Dieu vient déplacer les patriarches. Deuxièmement, Dieu vient installer les patriarches. C'est-à-dire que premièrement, Dieu déplace les patriarches. Deuxièmement, Dieu installe les patriarches. Troisièmement, Dieu impose les patriarches. Après l'avoir imposé, Dieu multiplie sa descendance. Dieu multiplie sa descendance. Il a beaucoup d'enfants. Et à la fin, quand il meurt, le patriarche va laisser un mot qui sera comme le cahier des charges et la ligne de conduite pour que tout le monde suive en fait de sa sortie. C'était ça, la vision avec laquelle le patriarche marchait. Dieu l'a déplacé, Dieu l'a installé, Dieu l'a imposé, Dieu l'a multiplié. Et à sa mort, le patriarche laissait un mot qui était comme la ligne de conduite que tout le monde doit suivre pour s'en sortir. Et c'est ce que Joseph avait reçu. Nous allons voir quelques patriarches, juste deux, et nous allons voir avec Joseph que c'était la même chose pour le cas de Joseph. Prenons le cas d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. J'avais dit qu'aujourd'hui, on va vraiment lire Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Pour voir que c'était le cas d'Abraham, le cas de Jacob et le cas de Joseph. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, là Dieu le déplace, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, là Dieu l'impose, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous comprenons que Dieu le déplace, Dieu l'installe, Dieu l'impose, Dieu le multiplie, et Dieu dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Regardons Jacob, Genèse chapitre 28, verset 12 à 15. Genèse 28. Genèse 28. Genèse chapitre 28, verset 12 à 15. Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Vous voyez, il le déplace, il l'installe, il promet de le multiplier. Je le donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Vous voyez, Dieu va le multiplier. C'est comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité.
je suis avec toi, je te garderai, partout où tu iras, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Genèse 48, à partir du verset 20. Genèse 48. Genèse 48, à partir du verset 20. Là, c'est Jacob qui est en train de bénir les enfants de Joseph et qui laisse les mots avant de mourir. Genèse 48, 20 à 21. Voilà ce que la Bible déclare. Jacob les bénit, il bénit les enfants de Joseph, en disant, c'est par toi que Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé, il mit Ephraïm avant Manassé. Verset 21, Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, il vous fera retourner dans les pays de vos pères. Là, Jacob, en tant que patriarche, donne les mots pour ce qui va se passer après sa mort. Venons maintenant avec Joseph dans Genèse chapitre 50, versets 24 à 26. Genèse chapitre 50, 24 à 26. Genèse 50, 24 à 26. Nous avons vu que Jacob a dit, je vais mourir, mais Dieu vous fera retourner dans le pays dans lequel il nous a fait sortir. Ça, c'est le patriarche qui a parlé. Regardons maintenant Joseph. Genèse 50, 24 à 26. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ces pays-ci dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc là, on se rend compte que, quand on remarque que Joseph parle comme Abraham a parlé, Joseph parle comme Jacob a parlé, Joseph parle comme un patriarche. Joseph avait reçu ce que son père avait reçu. Ils étaient à 12, mais 12 n'avaient pas reçu ce que Joseph avait reçu. Joseph était le seul à avoir reçu ce qu'il avait reçu. Je m'étais dit que vous pouvez être nombreux, mais toi tu seras le seul à avoir reçu ce que Dieu va te donner. Je m'étais dit que tout le monde n'aura pas forcément ce que toi tu auras reçu. Car Dieu te donnera ce qui sera rare. Aux yeux des autres, tu donneras ce qui est bon, mais à toi, tu donneras ce qui sera rare. Alléluia. Joseph avait reçu ce qui était rare. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait de Joseph un petit patriarche, entre guillemets. Dieu lui avait donné la grâce qu'il avait donnée à patriarche. Donc, les frères de Joseph, lorsqu'ils voient les songes que Joseph a fait, ils comparent avec les songes que leur frère Jacob a fait. C'est comme s'ils étaient en train de comprendre ceci. Nous, selon ton songe, nous serons grands, mais toi tu vas peser. Amen. Les frères de Joseph comprennent que nous serons grands, mais toi tu vas peser. J'aimerais te dire, autour de toi, il peut y avoir des grands, mais toi tu vas peser. Autour de toi, il peut y avoir des hommes forts, mais toi, tu seras plus fort. Autour de toi, il peut y avoir des gens puissants, mais toi, tu seras plus puissant qu'eux. Autour de toi, il peut y avoir des gens riches, mais toi, tu seras plus riche. Joseph avait reçu la grâce d'être au-dessus de ses frères. Ses frères étaient grands, mais Joseph était plus grand qu'eux. Je dis, non, c'est pas possible, c'est ce qu'il y a de sens que Joseph a reçu. Nous serons grands. Ruben, je suis grand. Nani est grand. Simeon, Lévi est grand. Mais moi, Joseph, je serai plus grand. Ah, ça, c'est, il faut l'humilité pour accepter ça. Comment ça? Là, Ruben, regardez comment Jacob décrit Ruben. Ruben, tu es impétueux, tu es fort, tu es puissant. Mais, tu es puissant, mais Joseph sera plus puissant que toi. Et ça, il faut avoir de l'humilité de l'accepter. La hauteur de ta vision déterminera la grandeur de ton histoire. Et la grandeur de ton histoire sera égale à ton poids dans la destinée. La hauteur de ta vision détermine la grandeur de ton histoire. Et la grandeur de ton histoire sera égale au poids de ta destinée. Il y a des gens qui sont légers. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont légers, qui ne pèsent pas dans la vie. Il y a des gens qui ne pèsent pas dans la vie. Ne cours pas derrière un grand qui ne pèse pas. Cours derrière même une personne, il n'est pas encore grand, mais tu sens déjà qu'il pèse, il pèsera demain. Il va te sécuriser. Bandeko, ne cours pas derrière un patron qui est grand. Mais cours derrière le patron qui pèse. Parce que le patron qui pèse a la force pour supporter ta destinée et te faire passer de A à B. Des patrons qui sont grands ne vont t'amener nulle part. Ils sont grands et tu les remarques qu'il est grand. Mais le patron qui pèse, même s'il n'a pas encore atteint la grandeur des autres, mais il a la capacité de te déplacer de A à B. Nous avons souvent vu ça aussi dans la vie pratique. J'étais en train de demander des conseils un peu. C'est Papa Rigobert pour bien présenter ça. Dans le domaine du choix du conjoint. Généralement, avant de trouver la bonne femme ou le bon mari de notre vie, généralement, peut-être que ton cas a été exceptionnel dès l'instant où le premier venu, c'était le bon directement. Gloire à Dieu. Mais généralement, pour la plupart d'entre nous, c'était que le premier, ça n'a pas marché, le deuxième, ça n'a pas marché. Et c'est que pourtant, le premier, là, tu as donné ton investissement. Il était beau, il était mignon. Oui, il était mignon, mais il était grand, il ne pesait pas. Il fallait que celui qui vienne pèse. J'aimerais te dire que Ruben est grand, mais il ne pèse pas. Simeon est grand, mais il ne pèse pas.
Siméon est venu, il a parlé, il t'a charmé, il t'a charmé, il t'a charmé. Oui, il l'a charmé. Il est grand, il est bien, il est puissant, mais il ne pèse pas. Et un beau jour, tu vois Joseph. On présente Joseph, beau de taille, beau de figure. Le fils de la promesse. Il pèse. C'est celui avec qui tu vas te retrouver. Autrement pour dire, le meilleur choix est toujours meilleur. Amen. Lorsque tu rencontres les meilleurs, ce sera toujours meilleur. Les autres, ce sera bon. Mais avec les meilleurs, ce sera toujours meilleur. Tu peux passer par des entreprises, c'était bon. Les conditions étaient bonnes. Mais le meilleur sera toujours meilleur. Tu peux passer par des fiancés que tu proposes. Je ne parle pas du mariage, je parle des fiancés. Tu as proposé la première à Sané Kito. Comportement, j'en envoie bien. Mais il y a un truc qui manque. Elle ne pèse pas. Dieu te donnera celle qui pèsera pour toi. Celle qui pèsera, je ne parle pas en termes des études. L'homme qui pèsera, je ne parle pas en termes de finances. Je parle qu'il a la capacité de te déplacer. Vous savez, il y a des frères qui ont des moyens, qui travaillent, mais vous sentez qu'il est déstabilisé. Dès l'instant, il rencontre celle qui pèse. Même quand il n'a pas son diplôme, vous vous rendez compte que le frère est devenu stable. Il est venu poser et il commence à avancer dans la vie. C'est parce qu'il lui manquait quelqu'un qui pesait. Les gens avancent parce qu'autour d'eux, ils ont des gens qui pèsent. Celui-là ou celle qui pèse n'a pas forcément fait tes études, n'a pas forcément ton diplôme, n'a pas forcément ton âge, mais il pèse. Il y a des fois qui m'ont dit, je n'ai pas compris. Dès que celle qui est venue à côté de moi, mon bon, je suis mal à mon corps. Mon opportunité, comme on est à gauche, à droite. J'ai dit, attention, au président, nous avons bataille du côté de nous. Nous avons bataille du côté de nous, nous avons bataille du côté de nous. Mais il fallait à côté de toi, quelqu'un qui pèse, qui va tirer ce genre de faveur. Joseph est esclave dans la maison de Potiphar, mais Joseph pèse à tel point que les biens de Potiphar commencent à prospérer. Il n'est pas le patron de la maison, mais il a en lui le poids qui peut faire prospérer ta maison. Je vais te dire, à côté de toi, il te donnera un Joseph qui pèsera à tel point que ta vie va avancer. Il te fera avancer. Il te donnera un patron qui pèsera et ta vie va commencer à avancer. Moi, je sais, patron, il y a des gens qui ont une entreprise, donc il y a une musique. Il n'y a qu'un homme à Joseph. Ne suis pas Siméon, ne suis pas Ruben. Il parle bien. Mais ils ne pèsent pas. Elles ne sont pas calmées trop fort pour la parole de Dieu. Ruben est grand, il parle bien, mais il ne pèse pas. Nous allons dire, Seigneur, jusqu'à présent, nous avons vécu sous le régime de ce qui est bon. Mais maintenant, amène-moi dans le régime de ce qui est meilleur. Car ce qui est meilleur pèse pour ma vie. Et c'est ce que nous allons voir, que Joseph avait reçu quelque chose qui pèse. La seule personne de tous les enfants de Jacob qui avait reçu la même vision avec le même poids, c'était Judas. Genèse chapitre 49, verset 8 à 10. Et vous allez voir que et Judas et Joseph, c'était les seules tribus qui ont pesé dans l'histoire d'Israël. Genèse chapitre 49, verset 8 à 10 et verset 22 à 26. Ça veut dire qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Genèse chapitre 49, verset 8 à 10 et verset 22 à 26. Nous allons voir l'accomplissement toujours d'une vision et l'effectivité dans la vie, c'est que ça accomplit. Nous allons voir deux tables, nous allons voir des cartes qu'on va afficher au tableau et vous allez voir que ça s'est réellement réalisé de la sorte. Genèse chapitre 49, verset 8 à 10. Voilà ce qu'on dit sur Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sous la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Vous avez entendu? Joseph n'était pas le seul à laquelle on devait se prosterner devant lui. La seule personne à laquelle on a dit aussi que toi aussi, le fils de ton père, se prosterneront devant toi, c'est Judas. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion qui les fera lever. La royauté ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton s'ouvrira dans ses mains, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que les peuples lui obéissent. 22-26, voilà ce qu'on dit sur Joseph. Joseph, tu es les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé les traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions de Mabel et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles sont sous la tête de Joseph, sous le sommet de la tête du prince de ses frères. On a dit que Joseph est le prince de ses frères. On a dit que Judas, le fils de son père, se prosterneront. Les seules personnes qui avaient reçu la promesse, la vision, que les autres vont se prosterner devant vous, c'était Judas et Joseph. Et nous allons voir avec vous, dans les contenus de leur vie, c'est ce qui s'est passé.
J'aimerais qu'on puisse afficher les tableaux lorsqu'il y avait le partage des enfants des 10 tribus d'Israël. Nous allons comparer les pays quand c'était sous la gestion d'un enfant de Joseph et il y avait prévu des cartes que l'on devait montrer ce qui s'était passé. Voilà. Voilà. Regardez les premiers, ces premiers tableaux ici. Ici, d'un côté, nous avons le pays qui est partagé sous la vision de Josué. Josué est de la tribu d'Ephraïm, un descendant de Joseph. Dieu avait dit que, nous avons dit que Joseph avait reçu une grande vision. Et cette grande vision, ses enfants aussi auraient une grande vision. Regardez le même pays, le même territoire, sous la gestion de Josué. Regardez la vision de Josué. Josué a partagé le pays. Toutes ces lignes ici, c'est les territoires que Josué donne à chacun. Regardez les lignes. Vous voyez? Siméon, c'est ici, ça c'est la tribu de Juda, là c'est Dan, Benjamin, à côté, vous avez Ephraïm, Manassé, Issachar. Ça c'est Zébéon qui a une vision pour tous les autres tribus. Regardez maintenant les enfants d'Israël après le départ de Josué. On leur a donné le pays entre vous, les enfants. Ce sont tous les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas un enfant de Joseph qui gère. C'est maintenant tout le monde, dont les enfants de Jacob en général, le même pays, avec les mêmes dimensions que Jésus a tracées, mais regardez là où les enfants d'Israël ont occupé cette partie ici. Vous voyez les parties là, c'est un peu en orange. Toute la grande partie que je suis là-bas, inoccupée. De ce côté ici en bas, inoccupée. Les territoires à gauche, inoccupés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas Joseph. Joseph, quand il a la vision, regardez le partage. Quand c'est tout le monde qui n'a pas reçu le poids que Joseph avait, le territoire est là avec le même potentiel, mais l'occupation, la gestion, l'assistance, c'est juste une petite minorité, une petite moitié. Je vais vous donner le deuxième tableau. Nous allons dire, ok, ça ce sont les territoires. Prenons maintenant les individus. Ok, on va prendre le deuxième tableau avec le premier roi Saül, qui est de la tribu de Benjamin, ne pèse pas, et le deuxième roi, et le deuxième roi, David. Et le deuxième roi, David, qui est de la tribu de Juda. J'avais dit qu'il n'y avait que deux tribus qui avaient reçu le poids. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Nous avons vu les premiers avec Joseph, du côté de Josué et les autres tribus. Regardez maintenant ce qui se passe entre le premier roi d'Israël, qui est de la tribu de Benjamin, et le deuxième roi, qui est de la tribu de Juda. Regardez le roi, le royaume de Saül. Le royaume de Saül, c'est ce royaume que vous voyez ici. C'est-à-dire que les Amalécites ne sont pas occupés, Édom n'est pas occupé, Moab n'est pas occupé, les Philistins sont tranquilles, la Phénicie est tranquille, la Syrie est tranquille, mais il est roi. Il est enfant de Jacob, il a le pouvoir sur le même territoire, mais parce qu'il n'a pas reçu le poids, il est grand. Vous voyez ce que j'avais dit, non? Il est grand, mais parce qu'il n'a pas le poids, regardez ce qui s'est passé. La gestion, c'est juste une petite partie. Regardez maintenant le royaume de David, Juda. David a occupé Édom, la Philistie, la Phénicie, là, jusque là-bas en Syrie, de ce côté à Rome, jusqu'en Égypte. Pourquoi? Parce que Juda et Joseph avaient reçu le poids. Je me suis dit que pour ta vie, Dieu a décidé de te donner le poids. Ne cours pas derrière la grandeur. La grandeur te donnera un grand potentiel, mais tu ne sauras pas l'exploiter jusqu'au bout. Mais lorsque tu as le poids, tu t'épanouiras jusqu'à ce que tu dépasseras même les limites qui étaient prévues pour ta vie. Et puis que pour ta vie, que tu puisses dépasser les limites qui étaient prévues pour ta vie. Que dans ton commerce, que tu dépasses les limites qui sont prévues pour ta vie. C'est pour cela que je disais que ne cours pas derrière un grand. Un grand, il est bon. Il va diriger, mais il est comme ça. Parce qu'il est grand. Mais quand tu as entre tes mains, quand tu es à côté de Joseph, quand Dieu a mis devant toi Joseph, quand Dieu a mis à tes côtés un Joseph ou même un David, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur aura la capacité de t'amener loin. J'aimerais te dire, jeune fille, n'envie pas un homme parce qu'il a une voiture. Avoir la voiture n'est qu'un potentiel. La voiture, ce n'est que le pays. Le problème, ce n'est pas la voiture. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en ferai après avoir eu la voiture. Ne cours pas après un homme parce qu'il a le travail. Le travail, ce n'est que le pays. Si le pays entre les mains de Saül, le potentiel sera limité. Il ne t'amènera pas loin. Mais cours derrière un homme, même si apparemment au départ il n'a pas encore eu le travail, mais parce que c'est un David ou parce que c'est un Joseph, il a la capacité de s'épanouir dans tous les domaines. On peut dire, en tout cas, vraiment, on a remarqué avant la venue de ses frères et après la venue de ses frères, en tout cas, il fallait que tu sois sa femme, il fallait que tu sois son mari. Je me suis dit qu'on dira en tout cas oui.
Notre frère, il a des bonnes idées. Mais c'est plus que toi qui es devenu son épouse. On sait vraiment que c'était toi qui devais peser. Je me suis dit que les gens se rendent compte que c'était toi qui devais peser. Les gens se rendent compte que dans l'entreprise, c'était toi qui devais peser. Les gens se rendent compte dans le pays que c'était toi qui devais peser. Les gens se rendent compte dans le département que c'était toi qui devais peser. Les gens se rendent compte dans la famille que c'était toi qui devais peser. Tout le monde, les yaya sont là, ils prennent des idées, c'est bon, c'est le pays. Mais depuis que lui il est venu, on sent que la famille est en ordre. La famille a un avenir. J'aimerais te dire que par toi, ta famille aura de l'avenir. Par toi, ton entreprise aura de l'avenir. Par toi, ton foyer aura de l'avenir. Par toi, le commerce aura de l'avenir. Par toi, ton entreprise aura de l'avenir. Par toi, tout ce qui te concerne aura de l'avenir. Parce que Dieu s'est décidé de te donner un poids. Ne cours pas derrière la grandeur. Ne cours pas derrière les titres. Demande à Dieu, Seigneur, fais-moi peser. Si tu me fais peser, autour de moi, tout va commencer à s'épanouir. Autour de moi, tu vas commencer à t'épanouir. David était un fugitif. David était mal à l'aise. Mais quand il a eu le pays, David a commencé à faire épanouir le pays. Il est allé même dans le pays qui n'était pas son pays, mais l'épanouissement allait même chez le voisin. Je vais te dire que ton épanouissement se fera sentir même très le même chez le voisin. Autour de toi, on s'entendait que oui, dans le quartier, ici, nous avons de l'influence. Mais l'influence qu'on a donné à ce voisin ici, ça détient sur nous. J'aimerais te dire que ton influence va détendre autour de toi. Je vais te donner une influence qui se détient. Une influence qui n'est pas effaçable, une influence qui n'est pas négociable. Deux rois, Saül et David, ce sont des rois. Saül, la Bible déclare que lorsque l'on décrit Saül, Saül était beau, l'homme le plus élancé d'Israël. Belle de taille, belle de figure. La Bible déclare que David était blond, beau de visage, beau de taille. Les deux sont beaux. C'est pour dire qu'elle ne court pas derrière la beauté. Dis Seigneur, je vois deux hommes qui viennent, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le chat du conseil. Je vois deux hommes qui viennent devant moi, mais je veux savoir qui est Saül, qui est David. Je ne veux pas donner mon cœur à Saül. Je ne veux pas donner ma destinée à Saül. Je ne veux pas suivre une entreprise Saül. Je ne veux pas travailler pour un gouvernement Saül. Je ne veux pas travailler auprès d'un chef Saül. Révèle-moi qui est David. Même si David est un fugitif, avec lui on pèsera, on va s'épanouir. Avec lui on pèsera, on va s'épanouir. Demande à Dieu le discernement spirituel pour dire Seigneur, je ne serai pas derrière n'importe quel gouvernement, je ne serai pas derrière n'importe quel ministère, je ne serai pas derrière n'importe quelle entreprise. Je veux que tu m'ouvres les yeux pour que je regarde où Seigneur notre Dieu, ça va péter. Même si apparemment, en apparence, lui il est le premier, ça il est le premier, il est venu en premier. Généralement aussi, je ne sais pas pourquoi Dieu a toujours voulu que ceux qui viennent en premier ne sont pas généralement les bons. Je vous ai dit que quand le premier vient encore, attends encore un souffle, tu peux dire, Seigneur, il est venu le premier. Apparemment, il se pourrait que un certain Joseph, un certain David est encore loin. Seigneur, révèle-moi les opportunités, entre deux opportunités. Demande à Dieu, Seigneur, entre Saül et David, quelle opportunité, où est David? Entre deux engagements, avec le même salaire, ou même avec des salaires différents, avec des opportunités différentes, l'un à l'étranger, l'autre au Congo. Demande à Dieu, Seigneur, c'est vrai, là-bas, c'est l'étranger. Les pays où coule les laits au vrai sens, ils vont pas les laits en poudre, les laits qui viennent de la vache. Entre les deux pays, les pays où il fait frais la teinture sans avoir besoin de lait de beauté. Mais je me vais comparer entre l'opportunité de l'autre côté et ici, où est David? Si David c'est ici, bien aimé, reste ici, il sera mieux que ceux qui sont là-bas. Bien aimé. Si David est ici, reste ici, tu seras mieux que ceux qui sont là-bas. Il y a des ceux qui se retrouvent à Matadi, il y a des ceux qui se retrouvent à Kinshasa. J'ai vu certains frères qui sont à Kinshasa qui disent, ah, mais vous à Matadi, vous êtes bien rabis. À Matadi. Mais il n'y a rien à Matadi ici. Il fait référence à d'autres où l'air David était ici à Matadi. Ils ont rendu compte que dans Kin, la capitale, les lieux du gouvernement, les sièges des institutions, ils ne se retrouvent pas, il y a des Saïds de l'autre côté, l'autre trouvé des David de ce côté. Soit tu n'auras pas de Bissiga de Kaouki parce que si Dieu t'a donné ton David ici, bien aimé, même si c'est dans la province, tu vas te retrouver. N'en vis pas, on t'a pas que photo, si tu as pas photo, pas qu'un photo. Si ton David, c'est ici en RDC, malgré les troubles, les crises, les coronavirus, mais toi, ici, tu te retrouveras, tu seras envié de l'extérieur. N'en vis pas, ne regrette pas. Ah ben, n'y a pas besoin de ma photo, ma photo, ma selfie, à côté d'une Jaguar. Jaguar, c'est ça, ici. Oh. Demande-lui de t'envoyer même $300, tu vois comment il va commencer à parler. Il va commencer à parler. Oh non, tu vas $300, mais c'est beaucoup, $300. Mais tu étais devant la Jaguar. Saül, intimidation, Saül, ah! que les Saül ne nous intimident pas. Nous, nous aurons les yeux fixés sur David. Nous aurons les yeux fixés sur Joseph. Car c'est Joseph et David qui est épanoui. Le reste, ils sont bons, mais ils ne sont pas meilleurs. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ce qui est meilleur. Est-ce qu'on peut s'élever pour parler au Seigneur? Seigneur, donne-moi ce qui est meilleur. Et ne me donne pas ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est tellement bon. Mais moi, je veux ce qui est meilleur. Et Dieu, pour ta vie, veut le meilleur. Ce n'est que tu parles au Seigneur. Seigneur, pour ma vie, donne-moi le meilleur. Pour ma vie, donne-moi le meilleur. Je refuse des relations Saül. Je refuse des relations Saül. Je veux les David. Je refuse des travails Saül. Je veux les David. Je refuse des occasions Saül. Je veux des David. Je n'ai rien encouragé. Si vous pensez que vous avez besoin de la prière, rapidement passez les avant prier pour vous. Si vous pensez que vous avez besoin d'une prière, les serviteurs sont là, ils vont rapidement prier pour vous. Bien-aimés, gagnons du temps. Lève-nous, on va parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je veux le meilleur. Je veux le meilleur. Je veux le meilleur. Ne me donne pas des occasions Saül. Jusqu'à présent, tous les proposants qui étaient venus étaient des Saül. Ils avaient des qualités, mais ça ne suffit pas. Bien-aimés, tu n'as pas besoin seulement d'un homme qui a des qualités. Tu as besoin de David qui va t'épanouir. Tu n'as pas besoin seulement d'une entreprise qui a des qualités. Tu as besoin de David qui va t'épanouir. Tu n'as pas besoin seulement des opportunités qui a des qualités. Tu as besoin de David qui va t'épanouir. Tu n'as pas besoin seulement de Ruben qui est aimé, qui a des avantages. Tu as besoin de Joseph qui a la capacité de te faire arriver. Tu as besoin de Joseph qui a une grande vision. Une vision élevée pour ta vie. Une vision de progrès pour ta vie. Une vision de grâce pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir de bonnes qualités. Tu n'as pas besoin d'avoir de bonnes choses. Tu as besoin d'avoir la meilleure chose. Tu n'as pas besoin d'avoir de bonnes choses. Tu as besoin d'avoir la meilleure chose. Tu n'as pas besoin d'avoir de bonnes choses. Tu as besoin d'avoir la meilleure chose. Tu mérites le meilleur de la vie dans le travail, le meilleur de la vie dans l'emploi, le meilleur de la vie dans la santé, le meilleur de la vie dans les enfants. Tu mérites le meilleur de la vie. Tu ne mérites pas d'avoir un enfant dans la coulouna. Tu mérites d'avoir un enfant qui te donnera la paix. Tu ne mérites pas d'avoir un travail qui te créera des problèmes. Tu mérites d'avoir un travail qui va t'épanouir. Tu ne mérites pas d'avoir un conjoint qui va te compliquer la vie. Tu mérites d'avoir un conjoint, une conjointe qui va te rendre heureux. Oh, ne demande pas à Dieu ce qui est bon, demande à Dieu ce qui est meilleur. Ne demande pas à Dieu ce qui est bon, demande à Dieu ce qui est meilleur pour ta propre vie. Demande à Dieu ce qui est meilleur. Demande à Dieu ce qui est meilleur. Et vous aussi qui êtes restés là-bas, levez-vous sur Dieu. Vous avez besoin du meilleur dans la vie. Personne ne mérite d'avoir ce qui est fort alors qu'il est ignorant pour ce qui est mieux. Personne ne mérite d'avoir ce qui est de qualité. Alors, tu veux avoir ce qui est meilleur. Je vais inviter les pasteurs français pour prier. Je veux ce qui est meilleur dans la vie. Je veux ce qui est meilleur dans le travail. Je veux ce qui est meilleur.
Que le meilleur qui est en nous nous valorise. Et valorise.